Voici une question qui va intéresser tous ceux qui veulent plaire à Dieu. Y a-t-il un moyen par lequel nous pouvons être sûrs de pouvoir résister à la tentation? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Voici des questions dont les réponses vont mettre beaucoup de lumière dans votre marche chrétienne avec Dieu. Qu'est-ce que le repas du Seigneur nous rappelle? Est-ce vrai que la Bible nous révèle ce que nous sommes? Est-ce que la psychologie peut remplacer la parole de Dieu? De quelle manière pouvons-nous résister à la tentation? Est-ce que Jésus-Christ est réellement Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner les réponses qui se trouvent dans la Bible. Je vous encourage à lire avec lui les passages qu'il va citer dans la parole de Dieu. Ça va nous aider à mieux comprendre l'enseignement qui nous est apporté. Mais avant tout, prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes avec tellement d'abondance. Merci pour ce pays où on a la liberté de la lire, de la mettre en pratique. Parle à nos cœurs, Seigneur. On t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous reprenons notre étude du 14e chapitre de l'Évangile selon Marc, car nous n'avons pu le couvrir en une seule session. En effet, c'est le chapitre le plus long de l'Évangile avec 72 versets. Le chapitre, tout comme l'Évangile en entier, est rempli d'action. À la dernière émission, nous avons vu que Jésus a emprunté la chambre haute pour célébrer une dernière Pâque avec ses disciples. Il a annoncé que Judas le trahirait, et c'est probablement à ce moment-là que Judas a quitté le groupe. Jésus-Christ institue maintenant la Sainte Cène, qui remplacera éventuellement la Pâque, qui cessera bientôt. Il crée un nouveau symbole. Pas un monument en pierre, mais un symbole avec du pain et le fruit de la vigne, des substances qui périssent facilement. La Pâque pointait vers le sacrifice à venir, soit Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, le repas du Seigneur rappelle, nous rappelle, un sacrifice passé. Le pain symbolise son corps qui fut brisé, sauf les os. Pas un seul ne fut cassé. Chers amis, débutons notre lecture. Marc chapitre 14, versets 22 à 25. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et, ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Dans ces versets, nous trouvons quelques éléments intéressants et importants. La coupe circulait 7 fois pendant la célébration de la Pâque. Pendant ce temps, les participants chantaient un psaume d'Hallel. Il semble que c'est lors du dernier tour que Christ n'a pas bu, mais qu'il a institué la Sainte Cène, ou le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur nous rappelle le sacrifice que Christ a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. La Pâque annonce un sacrifice à venir, et elle sera rétablie pendant le millénium, comme nous l'apprenons en lisant le prophète Ézéchiel. Cela sera fait afin de rappeler sa venue. La Pâque fut instituée pour annoncer le sacrifice, et elle sera rétablie afin de le rappeler. Il n'y a pas de raison pour laquelle la Pâque ne puisse pas rappeler le sacrifice de Christ, comme elle l'a annoncé. Ceci expliquerait la véritable signification de la Pâque pendant le millénium. L'apôtre Paul a écrit, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Retournons à l'Évangile selon Marc, chapitre 14, cette fois, les versets 26 à 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ici, nous voyons Pierre affirmer sa fidélité à Jésus-Christ. Il était sincère, mais malheureusement, il n'était pas conscient de sa faiblesse. C'est le cas de la plupart d'entre nous aujourd'hui. Nous ne connaissons pas notre faiblesse. Et ce n'est pas la psychologie qui vous la fera découvrir. Seule la parole de Dieu nous révèle tel que nous sommes vraiment. C'est le seul miroir que nous ayons. La psychologie peut m'aider à structurer l'ordre dans lequel je dois explorer mon individu. Mais seule la parole de Dieu peut m'apporter une guérison véritable, car seul Dieu connaît vraiment mon cœur. Mes amis, aucun d'entre nous ne connaît les profondeurs du cœur humain. Seule la parole de Dieu peut nous faire découvrir quels pécheurs nous sommes. Permettez que je sois très clair sur ce point. Seul le Seigneur peut régler un problème. Vous ne réglez pas un problème afin de pouvoir venir au Seigneur. Non, mes amis, il faut premièrement venir au Seigneur avec notre problème, notre grand médecin céleste. En fait, il est le psychologue qui nous connaît parfaitement. Autrement dit, il n'y a personne d'autre que lui qui puisse vraiment nous aider. J'insiste sur ce point, car je crois qu'il est important que quelqu'un le fasse aujourd'hui. Seul Dieu peut transformer un cœur. Nous devons apprendre à aller à lui et nous jeter dans ses bras. Peut-être admettons-nous que nous avons eu une enfance malheureuse et que nous avons vécu plusieurs malheurs, mais nous avons un seul Sauveur qui nous aime et nous pouvons aller à lui en tout temps. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un vers qui aller. Jésus annonce à ses disciples qu'il les précédera en Galilée. Il annonce sa résurrection. Il leur annonce qu'ils seront dispersés, mais qu'il ira en Galilée et qu'il les verra là-bas. Cependant, Simon-Pierre n'admet pas cela. Il affirme qu'il ne sera pas scandalisé comme les autres. Pierre ne sait pas ce qu'il dit. Et le Seigneur le prépare pour sa chute. De plus, il dit à Pierre qu'il sera avec lui. Mes amis, le Seigneur est avec vous pendant les temps difficiles. Il est avec nous pendant les heures les plus sombres. Il était certainement avec Pierre. Les versets 32 à 34. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Les disciples devaient se retrouver souvent à Gethsémané. Nous ne sommes pas certains que c'était vraiment un jardin, mais l'endroit devait être de l'autre côté de la montagne. Cependant, ce détail n'est pas important. Judas devait bien connaître l'endroit puisqu'il y avait accompagné Jésus et les apôtres. Le Seigneur se retirait toujours à cet endroit, car il n'a pas passé une seule nuit à Jérusalem. Rappelons-nous, il ne reste que 11 disciples. Il en laisse 8 à l'entrée de Gethsémané et poursuit avec Pierre, Jacques et Jean. Il est allé pour prier. Le langage employé indique que Christ souffrait énormément. Christ éprouvait une angoisse profonde. La lutte dans son âme était grande, probablement plus grande que sa mort physique à la croix. Je pense que Satan était là pour le tenter. Nous ne pouvons qu'examiner cette scène de loin. Il y a des mystères au sujet de ce qui s'est passé que nous ne pouvons pas comprendre. Versets 35 et 36. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc affirme que Christ a prié afin que cette heure s'éloigne de lui. Ce n'est pas la mort qu'il craignait, mais l'heure passée sur la croix, le moment où il a porté tout le poids de nos péchés. Il a été fait péché pour nous, nous dit l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. L'heure et la coupe sont synonymes. Lisons ce qu'a écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8. Maintenant, il retourne vers les disciples. Versets 37 et 38. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Les trois disciples n'étaient pas troublés par quoi que ce soit. En fait, ils se sont endormis. Le fait qu'ils pourraient renier Jésus-Christ ne perturbait pas Pierre. Il aurait dû être vigilant et prier, mais il s'est simplement endormi. Être vigilant et prier est notre manière de résister à la tentation. Jésus retourne et refait la même prière, versets 39 et 40. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Les disciples n'avaient pas d'excuses, et nous voyons que nous ne pouvons pas faire confiance à la chair. Versets 41 à 43. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Les principaux sacrificateurs arrêtent Jésus au moment de la fête, pas après, comme ils le désiraient. C'est le plan de Jésus qui s'accomplit. Verset 44. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Nous avons ici le récit d'une trahison des plus ignobles. C'est un acte vil et méprisable. Judas savait où se retirait Jésus et ses disciples, et il y a guidé l'ennemi. Judas s'est servi d'une marque d'amour et d'affection pour trahir son maître Jésus. Ceci rend son geste encore plus répugnant. Dans son humanité, Christ ressemblait à tous les hommes. Il était nécessaire qu'il soit désigné lorsqu'il était avec une foule. Verset 45. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », et il lui donna un baiser. Notez que Judas appelle Jésus « Maître » et non « Seigneur ». Nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Verset 46. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. C'est le moment où Jésus est livré dans les mains des pécheurs. Il se soumet au supplice de la croix pour nous. Simon-Pierre essaie de secourir Jésus. Versets 47 à 49. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Jésus souligne le fait que tout ce qui se passe est un accomplissement des prophéties. Si ces gens avaient cru les Écritures, ils y auraient pensé deux fois avant de mettre la main sur Jésus, et ils auraient peut-être changé d'idée. Verset 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus nous confirme que c'est Pierre qui a porté le coup d'épée et que le serviteur s'appelait Malchus. Heureusement pour Malchus, Simon-Pierre n'était pas habile avec une épée. Il a frappé l'oreille plutôt que le cou. Tous se prirent la fuite, et encore une fois, c'est un accomplissement d'une prophétie que nous pouvons lire dans les livres d'Ésaïe et Zacharie. Versets 51 et 52. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Certains pensent que le jeune homme était l'apôtre Paul, d'autres pensent que c'est Jean-Marc, l'auteur de l'Évangile que nous étudions présentement. Je suis plutôt d'avis que c'est Jean-Marc, car qui d'autre aurait pu rapporter un détail aussi personnel? Verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Lorsque nous étudierons les évangiles de Luc et de Jean, nous examinerons ce procès de Jésus en détail. Il y a cependant un point sur lequel j'aimerais que nous nous arrêtions maintenant, car il est étonnant. Jésus fut conduit devant le Sanhédrin pendant la nuit. Au verset 60, nous lisons. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus n'a même pas essayé de se défendre contre leur fausse accusation. Versets 61 et 62. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Ne me dites pas que Jésus n'a jamais affirmé avoir une nature divine. Ici, Jésus est sous serment et il affirme être Dieu. Le souverain sacrificateur a bien compris la portée des paroles de Jésus. Poursuivons notre lecture, versets 63 et 64. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Que vous ensemble ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Chers amis, ou Jésus a dit la vérité, ou il a menti. Si Jésus a menti, les sacrificateurs peuvent justifier une condamnation de Jésus. Mais, s'il a raison, il aurait fallu qu'il fasse un supplément d'enquête. Verset 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant, « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Ce chapitre se termine avec le reniement de Pierre. Le regard d'une servante suffit à faire trembler Pierre, qui renia Jésus. Lorsque la servante revint une deuxième fois, Pierre se mit même à jurer. Poursuivons et terminons notre lecture, les versets 66 à 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Pierre pouvait se repentir de ses péchés. Il a versé les larmes d'un véritable repentir. C'est Pierre qui a écrit, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Citation de 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Pierre sait que c'est le Seigneur qui l'a gardé. Oui, chers amis, Pierre, par expérience, a pu nous laisser par écrit que le Seigneur est celui qui veille et garde les âmes. As-tu eu cette expérience personnelle avec Jésus? Est-il celui qui peut veiller et garder ton âme? Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Marc 15, versets 1 à 37.
Merci, Régent. J'aime tellement recevoir l'enseignement qui décrit les dernières heures de Jésus sur cette terre. Ces moments où le Fils de Dieu, Dieu fait homme, a volontairement choisi de donner sa vie pour moi. Puis en même temps, bien, je suis triste de voir que ses disciples se sont tous endormis pendant que Jésus était à Gethsémané. Face contre terre, souffrant, et disant à son Père, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mais je ne prétends pas que j'aurais fait un peu mieux qu'eux, sûrement pas. Tout comme eux, j'ai dû apprendre à être vigilante, à prier pour résister à la tentation. Ça me rappelle les jours où je faisais mes premiers pas comme enfant de Dieu, né de nouveau. J'avais laissé un amant, un homme marié que j'avais beaucoup aimé. mais avec qui j'avais dû rompre une fois que j'ai réalisé que l'adultère, c'est péché. Toutefois, cet homme était aussi un collègue de travail, puis je continuais à travailler avec lui dans la production d'albums, de commerciaux pour la radio, la télé. Et un jour, on était dans un studio d'enregistrement en train d'écouter le mixage d'une chanson. On était assis, le dos à la console et face à la vitrine qui nous séparait de la pièce où les musiciens puis les chanteurs exécutaient leurs pièces. Personne ne nous voyait, sauf Dieu. Et soudain, mon ancien amant me dit « J'aimerais seulement mettre mon bras autour de toi. » Puis heureusement, ma première réaction a été de faire une courte prière dans mon cœur, demandant à Dieu son secours. Puis tout de suite, j'ai répondu non à mon ex. Et ça a même été facile. Ça, c'est la puissance de Dieu qu'on va chercher dans la prière. C'est pas surprenant que la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Et ce n'est pas surprenant non plus que Jésus ait dit à ses disciples de veiller, de prier, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ça, on peut le vivre une fois qu'on est un enfant de Dieu. Mon ami, est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments de tentation et de les trouver pénibles? N'attends pas de tomber. Tu vas le regretter amèrement. Demande tout de suite l'aide de Dieu. Demande-la avec foi. C'est certain qu'il va t'exaucer, parce qu'il ne veut pas que tu pêches. Il t'a donné la prière, il t'a donné aussi son Esprit Saint le jour où tu as reçu Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Il y a toute une puissance dans l'Esprit de Dieu. À moins que tu ne l'aies jamais reçu. Et si c'est le cas, il n'est pas trop tard pour le faire maintenant. Tu n'as qu'à reconnaître que tu es un pécheur perdu. Et c'est pas moi qui te juge. Dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il ajoute une très bonne nouvelle au verset 24. « Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Crois-tu au sacrifice de Jésus à la croix? C'est là qu'il a payé en entier la dette de ton péché, qu'il a tout accompli parfaitement pour maintenant t'offrir le salut, le don gratuit de la vie éternelle. La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance dans l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui veut ôter ton péché, qui veut te donner la vie éternelle. Dieu fait des promesses et il les tient. Alors reçois ce don de la vie éternelle. Crois en Jésus.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.